generation or the next group of people coming in. And I think our parents and grandparents did what they could, but they left us with a lot of work to do.
All right, that was an interview with...
Okay, well, thank you for thinking about me, Alon, and making space for her.
Okay, that was an interview with Benita Bungen, a good friend of the now-deceased Merlin Demers. She died at the age of 26, and her funeral was held on July 5th in Quebec City. In memory of Merlin's life, her family is asking... people to make donations to the women's organization Viol Secur in Quebec City. To check out that organization, you can go to the website violsecur.qc.ca. That's violsecur.qc.ca. Stay tuned next for Amandala.
I like to listen to CKUT 90.3 FM.
And analysis brought to you in English and French. Tonight we kick off the show with an interview that Roberto did with Haja Madagascar, and they'll be playing tomorrow night as part of Nuit d'Afrique. We also have back in the studio with us Myriam and her ongoing series of migrant stories, and she'll be taking a look at the story of Gérard Bess and his migration from Cameroon to Morocco and then back down to Mali. Then in the second half of the show, Doug and I will be taking a look at the recent call to indict Sudan's president and bring him before the International Criminal Court. We'll be taking a look at a debate. Will this help to break the cycle of impunity or reinforce it? So please stay tuned to Amanda here on CQT 90.3 FM.
Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Amandla sur les ondes de CKUT 90.3, votre émission d'information et d'analyse sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons jeter un regard sur la Cour pénale internationale et les pour et les contre de son activité dans le cadre en particulier de ce qui se passe au Soudan et aussi au Zimbabwe. Nous allons également retourner sur notre dossier sur l'immigration, en fait les clandestins en Afrique avec Myriam Cloutier, et nous allons commencer l'émission avec Haja Madagascar qui se produit à Nuit d'Afrique demain soir. Alors restez à l'écoute pour une autre édition d'Amandla. Alors, on entend la voix de Hadja Madagascar. C'est le groupe qui se produit demain soir au Balatou dans le cadre du festival Nuit d'Afrique. Et un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai rencontré Hadja Madagascar pour qu'il nous parle un peu. Vous savez que le festival Nuit d'Afrique, ça se poursuit encore jusqu'à au moins dimanche. Je ne sais plus les dates exactes, mais c'est au moins jusqu'à dimanche prochain à Montréal. Et il y a une foulée d'artistes qui se produiront et qui se produisent à tous les soirs. Demain, ce sera le tour de cet artiste malgache dont le nom c'est Hadja. Hadja Madagascar, en fait, son nom c'est Hadja. Et on a constamment ajouté le nom de Madagascar au bout de son prénom. Donc, il a fini par changer lui-même et par s'appeler dans ses tournées Hadja Madagascar. Et je l'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui pour qu'il nous parle de sa musique, de plusieurs différents aspects de la musique malgache aussi. Hadja Madagascar est basé en France et il voyage entre la France et l'Autriche. C'est un artiste qui vient du nord-ouest du Madagascar. Et alors, je lui ai demandé de nous parler tout d'abord de la musique malgache comme telle.
En fait, on a un street album. Voilà. Donc c'est rare de... En fait, nous sommes presque une exception dans la mesure où il n'y a aucun groupe qui tourne et qui n'a pas un album en entier ou qui n'a pas un album avec un label. Mm-hmm. Et on a ce privilège d'être apprécié par le public et les organisateurs de festivals sans avoir un CD. Donc c'est un privilège parce que je pense que notre live convainc pas mal de gens. Et l'album va sortir tantôt, bien sûr. Mais pour l'instant, on a un street CD de 5 morceaux dedans, dont 2 que vous avez écoutés. En parlant de la musique, je peux définir ça comme un tradit moderne. Donc c'est un mélange de la tradition et de la modernité. Dans la mesure où, quand on était petit, à Madagascar, j'étais tout le temps en short, vraiment dans la tradition en brousse. Et on vivait aussi en ville après. J'avais tout le temps ce mélange, pour moi, assez équilibré, de la brousse et de la ville. Et ça se reflète dans ma musique aussi. Vous allez me voir avec des peintures sur le corps, mais quelquefois un pantalon de ville. C'est un mélange, parce que c'est toujours moi. Voilà. Mm-hmm. Et la musique qu'on fait, c'est la racine, la base, c'est ce qu'on appelle la musique de trance. Donc ça vient de la musique traditionnelle de chez moi. Et la plupart, en fait, ça s'écoule directement de la musique spirituelle. Voilà.
D'accord.
C'est des musiques qui tournent avec des petits changements dedans. et qui induit cette espèce d'unité parmi les gens qui nous regardent à un moment donné. Donc à partir de, je sais pas, deuxième morceau, troisième morceau, il y en a qui le sentent tout de suite. Et j'invite vraiment le public à venir nous voir parce que c'est assez difficile à expliquer, bien que nous soyons seulement trois, trois musiciens sur scène. Ça donne quand même une énergie assez forte.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Et en fait, j'aimerais bien connaître mieux la musique du Madagascar comme telle. Quels sont les genres de musique au Madagascar? Est-ce que Adja Madagascar, c'est un courant important au Madagascar? Qu'est-ce que les gens écoutent là-bas aussi?
Bon, c'est une très bonne question parce que, premièrement, on a beaucoup de styles. Et on a encore ce privilège que les Malgaches aiment, donc les autochtones aiment la musique qu'on fait chez nous-mêmes. Voilà. Il y en a qui découlent de la tradition, qui prennent un peu la tendance moderne. Il y en a qui sont totalement modernes, peut-être, mais chantés en malgache. Il y en a qui sont vraiment la tradition. Voilà. Il y en a aussi qui sont la tradition, mais modernisée. C'est un peu notre cas, on va dire.
Mais la tradition, c'est quoi?
Je peux prendre le Malesa, le Bawedi, le Salegi, le Kilalaki, le Tsapiki. Par exemple, c'est une sorte de scoop pour vous, en fait. Y a très peu de gens qui connaissent que le merengue, qui est joué en République dominicaine, l'origine, c'est Madagascar.
Ah ouais.
Voilà. Vous pouvez aller dans Google et taper merengue, voilà. Et Madagascar, vous allez avoir le lien entre les deux. Parce qu'il y a des gens qui ont été amenés comme esclaves de Madagascar, qui sont allés là-bas et qui ont gardé le tambour traditionnel. Voilà, ils ont recréé et ils ont joué cette musique, même si c'est loin Madagascar. Et ce n'est pas forcément écrit dans les livres, mais c'est la tradition orale chez eux. Donc il y a des sites qui relatent ça et ce sont les vieux, qui sont d'origine africaine et qui habitent en Dominique républicaine.
Wow, c'est un peu de ethnomusicologie, hein.
Voilà, ouais, moi j'aime ça.
Ouais, et puis, mais est-ce qu'il y a encore de la musique de ce style de merengue qui existe au Madagascar?
Oui, bien sûr, le même rythme. Bien sûr, c'est pas le même nom, mais ce rythme-là, ça se retrouve dans centre-sud ou sud-ouest de Madagascar. Bien sûr, c'est les mêmes. Et si vous allez dans notre concert, il y a deux morceaux qui se ressemblent à ça un peu, justement.
Okay. Voilà. Super. Et pour conclure aussi, j'aimerais qu'on parle des paroles. C'est quoi le contenu de vos chansons là?
Voilà, les paroles en général, je parle de... Je suis plutôt pour la conscientisation intérieure. Souvent, on va critiquer ce qui se passe, voilà. Et moi, je suis plutôt pour le fait que c'est mieux de commencer de se critiquer soi-même, en quelque sorte. Et parce que je pense qu'on peut faire plus quand on arrive à être équilibré avant de commencer à bouger partout. Et c'est ce que j'essaie de conscientiser les gens. Quelquefois, ça peut être une pièce instrumentale, mais qui va relater ça quelque part. Bien sûr, chacun peut faire son interprétation, ça c'est clair. Mais j'utilise aussi par exemple les vocalises. C'est des vocalises qui s'inspirent des ancêtres des Malgaches qu'on appelle les Vazimba. C'est, si vous voulez, c'est une langue imagée, mais qui a quand même comme sonorité la langue de nos ancêtres. C'est les premiers peuples de Madagascar qu'on appelle les Vazimba, ça veut dire ceux qui étaient là avant, en quelque sorte. Et c'est des gens qui venaient de l'Afrique de l'Est. Et quand je chante, bien sûr, c'est pas nécessaire de comprendre ce que je chante, c'est nécessaire de sentir ce que je chante. Et chacun va sentir comme il veut. Bien sûr, quand je dis le mot amour, même si je le dis en français, je suis sûr que chacun a son interprétation de ce mot-là. C'est impossible que s'il y a 100 personnes devant et je dis le mot amour, chacun va faire son amour. Voilà. Je veux dire le mot dans sa tête, il va essayer de réfléchir, ok, c'est quoi amour pour moi? Voilà. Donc, en donnant un mot énergétiquement, on peut créer vraiment... c'est plus large, on va dire. C'est plus accessible, c'est plus large. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui écoutent les chansons en anglais sans vraiment savoir ce qu'ils disent, mais ils vont seulement avec le beat, avec la mélodie, avec le groove. C'est exactement ce que j'utilise en fait. Donc moi, j'utilise la voix comme un instrument Donc je la façonne, je la chante en malgache, je la chante en vazimba, voilà. Et ça donne vraiment une liberté au niveau de l'expression qui est assez impressionnante pour moi sur scène.
D'accord. Ouais. Ben, on va se laisser là-dessus, puis on va inviter les auditeurs à écouter justement Adja, Madagascar, c'est bien ça?
Oui.
Oui. Et on rappelle que vous jouez demain soir, donc jeudi soir, au Balatou.
À 22h.
À 22h, dans le cadre du festival Nuit d'Afrique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et si vous voulez vraiment sentir au moins une fois dans votre vie cette espèce d'unité entre tous les gens qui regardent un concert, je vous invite de venir demain, jeudi, à 22h au Balatou. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Adja Madagascar qui joue, comme vous l'avez entendu, demain soir au club Balatou sur la rue Saint-Laurent à la hauteur juste au sud de Mont-Royal, au coin de Marianne en fait. Et donc Adja Madagascar, un artiste malgache qui est parmi nous jusqu'à demain ou peut-être jusqu'après-demain. Et je suis désolé de couper cette chanson, c'est parce qu'on l'a déjà fait jouer la semaine passée sur l'émission ici à Mandla. Alors on va vous inviter plutôt à aller le voir en direct. Notre émission se poursuit et on va parler maintenant à Myriam qui est avec nous en studio. Myriam qui nous parle régulièrement du dossier des clandestins et liés avec l'immigration de façon générale, vu du Mali. Alors bonsoir Myriam. Oui, je vais... Petit problème de micro. D'accord, alors bonsoir.
Bonsoir.
Ouf. on recommence.
Est-ce que ça marche?
D'accord, oui, on est là. Donc, Myriam, tu vas nous parler du dossier de l'immigration, des dossiers des clandestins au Mali. Toi, tu étais plusieurs mois au Mali. Ce soir,
oui.
De quoi on parle?
Donc, c'est pour poursuivre la série sur les migrants. Donc, ce soir, on a une entrevue avec Gérard Bess, qui est un refoulé. Donc, c'est un Camerounais qui est parti à peu près 3 ans sur la route du désert. En fait, il est parti du Cameroun jusqu'au Maroc, où il a tenté de franchir la barrière de Melilla. Il a été ensuite...
Oui, l'enclave espagnole de Melilla.
Voilà. Et ensuite, il a été reconduit à la frontière algéro-marocaine et il a été refoulé de centre de détention en centre de détention jusqu'à la frontière du Mali et de l'Algérie. Et depuis, c'est ça, quelques années maintenant, il habite à Bamako où est-ce qu'il milite avec l'association voilà, des refoulés d'Afrique centrale au Mali. Donc, c'est des gens qui sont organisés et qui, surtout, c'est une association qui montre beaucoup de solidarité là, entre les gens. Donc, voilà, c'est l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Aussi, Gérard Bess, c'est un chanteur. Il prépare un album. Je n'ai pas sa musique encore. Par contre, il m'a fait découvrir les chants des migrants. Donc, ce sont des chansons qui s'apprennent entre les migrants et qui sont transmises de génération en génération de migrants.
Wow.
Donc, sur la route, c'est des chansons pour s'encourager, pour pouvoir poursuivre la marche dans le désert, par exemple. Et aussi, c'est des chansons pour permettre d'indiquer où se cachent les policiers et tout ça. Donc, on va écouter l'entrevue et à la fin, on va avoir leurs droits. Un petit extrait justement de ce que ça ressemble, le chant des migrants.
Vous savez, quand on voit la télé, on voit l'Europe, ça nous fait rêver. Et on a besoin d'y arriver parce que la situation qu'on vit dans notre pays et celle de notre famille, peut-être aussi si on est pilote de la famille, on se rend compte qu'on ne peut vraiment pas tenir les deux bouts. Parce que tout jeune a envie quand même de mener une vie passionnante. Et pour ça, il faut aller en Europe. Selon ce que nous nous disons, il faut aller en Europe trouver le bonheur là-bas. Puisque nous, on se dit déjà que c'est le bonheur qu'on trouve, c'est le paradis en quelque sorte. C'est ainsi que je prends la route, je m'en vais et puis je suis confronté aux difficultés. D'abord à partir du Nigeria, je suis bloqué en route. Nul était mon métier, électronicien, que je commence à me débrouiller au Nigeria, au nord du Mali, vers Kano. Je commence un peu à me débrouiller par-ci par-là, dans les ateliers de réparation, téléviseur, radio et puis beaucoup de choses. Et là, j'ai eu la chance que j'ai eu un peu de sous qui m'ont permis de me retrouver au Niger. Au Niger, c'était la même chose. J'ai continué de là-bas. Et ensuite en Libye. En Libye, c'est toujours la même chose parce que je n'avais pas assez d'argent sur moi pour pouvoir dire que je vais aller directement. Il fallait qu'à chaque pays où je me retrouve, vu que je me disais que j'avais une clé qui était mon boulot. Peut-être que c'était un atout que moi j'ai, que moi j'avais en ce moment. Et moi j'avais ce métier qui est peut-être valorisant, qui on a besoin de panier, les postes, les viseurs, les pubs, les ordinateurs, les pubs, moi j'y connais. C'est ainsi que je me suis retrouvé en Libye, c'est là où vraiment les difficultés commencent. Je commence maintenant à me rendre compte du vrai aventure auquel je suis affronté. Et je comprends le racisme. Pour dire son nom, parce que à un moment donné je ne voyais que ça à la télé, je voyais des films de racistes, je voyais les choses, mais à partir de là je commence à voir les réalités du racisme. C'est ainsi que je travaille quand même, malgré toute cette pression qu'on a sur les noirs, mine de rien on avance quand même. Alors il y a un monsieur qui m'accepte, on dit bien, il m'accepte de travailler dans son atelier, j'en travaille. Et c'est ainsi avec un refoulement général qui arrive en Libye, où on demande que tous les noirs doivent quitter, on arrête même les noirs dans les maisons, on les met en prison. Je réussis donc à me cacher. C'est ainsi qu'avec le guide, on s'en sort, on va donc, on se retrouve en Algérie, donc on fait peut-être près de 2 semaines de marche au désert. Chaque nuit, on est confrontable, beaucoup de problèmes, on boit même nos urines. C'est pas facile quoi. Ce sont les choses qu'on n'explique pas facilement. On marche pendant 2 semaines en plein désert, avec nos guides, où on retrouve un peu de l'eau, même si l'eau elle était tard, on est obligé de faire avec. C'est comme ça qu'on marche, finalement on arrive en Algérie. Et en Algérie, c'est encore, ça devient encore plus dur. Parce que là-bas, alors, on n'accepte même pas que le noir travaille, surtout quand tu es, on appelle ça quand tu es de passage. Finalement, je me retrouve vers le Maroc, vers Gourgo, comme on dit, où il y a tous les noirs. C'est une partie du Maroc, ouais, qui est du côté de la barrière, pour aller sur la barrière vers l'Espagne. Puis bon, là j'ancre, je traverse la barrière avec beaucoup de difficultés auxquelles j'avais eu mal au pied ou la cheville. Parce que là on est dans la nuit avec des barrières qu'on fabrique, avec des échelles qu'on fabrique. Je suis donc ancré et arrivé là-bas, on a eu des problèmes, on nous a encore fait sortir. Donc quand tu escalades la barrière, tu peux avoir la chance de là pour arriver à la Croix-Rouge, c'est au moins ce. C'est au moins 5 kilomètres. C'est tellement beaucoup quoi. C'est de là où la police l'Espagnol nous attrape et puis nous renvoie encore en arrière. On nous fait sortir, en nous tabassant bien sûr. C'est comme ça que je me retrouve encore, je suis obligé de retourner encore en Algérie. De l'Algérie, maintenant, on nous attrape maintenant parce que je n'avais même plus de sous sur moi, rien. Quand moi, on m'avait attrapé, en route, je marchais en route, on m'a arrêté. On m'a demandé mes papiers que je n'en avais pas. On m'a donc amené en cellule. Et puis, il fallait que j'attende le jugement. Parce que là, on t'amène, on te dresse un procès verbal où tu dois signer. Tu ne signes parce que tu signes. Parce que tout est écrit en arabe. J'ai signé un document que je ne connaissais pas la teneur, ce qui s'est passé dedans. Et on m'a pris, on m'a envoyé en prison. Il fallait que je l'attende le jour du procès. J'ai fait pratiquement 3 semaines en prison, en attendant le jour du procès. Le jour du procès, quand le moment est arrivé, on m'a condamné à 6 mois avec souci qu'il fallait que je sorte du territoire algérien. C'est ainsi qu'on a commencé à nous déporter de celui de refoulement à celui de refoulement.
Camarade, where your passport?
Wallo!
Camarado, where your flight ticket?
On me prend, on m'amène à Alger. Je fais là-bas 3 jours en attendant d'autres délégations des refoulés. Et c'est ainsi qu'on est là, on attend. Après, on nous fait descendre à Saïda. À Saïda, encore, il faut attendre une bonne quantité. Parce que si vous êtes peut-être 5, on ne peut pas refouler 5 personnes. Donc, vous devez rester en attendant qu'on attrape d'autres personnes en ville. On nous sent maintenant de Saïda. Nous sommes bien à Regen. On quitte de là maintenant. On tombe maintenant à Boshbek, Benji Mokhtar. Finalement, nous sommes arrivés à Tamaracet. Et c'est ainsi qu'on attend le grand jour. On nous parque dans les grands camions. Parce qu'on recoupe dans la nuit. Dans les grands camions. Dans la nuit. Vous faites tout. Vous avez au moins 2 jours de voyage comme ça dans les grands camions. Il y avait, je crois, c'était 5 camions. On était près de 1500. Ouais. Et parce que je vous rappelle que un refoulement peut durer un mois. Donc, si on te prend à Oran, par exemple, beaucoup tu arrives à Tamaracet, tu peux facilement faire un mois et demi en route. Parce que tu vas de celui de refoulement en celui de refoulement. Ça peut te faire un mois. Et quand tu arrives à Tamaracet, tu es déjà épuisé. Tu es fatigué. Les conditions sanitaires déplorables. C'est pas facile. Si tu es malade, tu t'en tiens à toi-même. Donc c'est comme ça. Nous, on arrive donc à Tamaracet dans la nuit, donc on nous met dans les camions pour nous envoyer maintenant à Tizanwaten où on vient alors nous déverser. On nous envoie du côté malien, quoi, la frontière du Mali. J'avais un peu de petits sous sur moi, l'argent qui restait un peu. J'ai aussi eu l'aide d'un ami qui m'avait aidé. Nous avons payé le transport. Je suis donc revenu ici à Bamako. Parce que tout ce que j'avais vécu pendant tout mon séjour de l'immigration, j'ai dit que je ne voulais plus me tenter. Parce que j'ai vu des gens mourir devant moi qui tentaient d'aller en Europe, qui ont pris des pyros. Ça n'a pas été facile. Avec tout ça, je ne voulais plus me tenter.
Camarade, where your passport?
Wallo!
Camarado, where your flight ticket? Johnson, police gay. Hey, gendarme gay. Eric Johnson, police gay. Hey, gendarme.
Ah oui, ça c'est le chant des immigrants. Chaque soir, lorsqu'ils se retrouvent après la marche du désert, on se retrouve, tous les immigrants se retrouvent dans la soirée. On chante ces chansons pour avoir encore plus de tonus et le courage, la force de pouvoir reprendre la route le lendemain. C'est ça. Même quand on n'a rien, ça c'est un chant qui doit nous donner la force, le courage de mieux vivre et de mieux affronter
les problèmes. Et les gens sont policiers, oh gendarmes.
Alors, on écoutait témoignage d'un clandestin, en fait, au Mali.
Oui, la longue route qui mène jusqu'à la barrière de Melilla, qui est parsemée d'embûches, et également la longue route du refoulement de centre de détention en centre de détention jusqu'à Tamaracet. En fait, cette ville qui semble une ville mythique en plein désert, une des seules, finalement, elle a un aspect un peu désolant.
Parce que c'est de c'est pas la dernière ville, mais c'est la dernière ville au sud de l'Algérie. Mm-hmm. Donc, la porte de sortie ou d'entrée vers l'Algérie pour beaucoup de clandestins.
Donc, c'est là que tous les refoulés de l'Algérie se retrouvent dans les prisons et c'est de là que partent la majorité des camions et on les refoule au Mali. Ça fait plusieurs semaines que je parle de l'ARACEM. Je vais vous donner un site web que vous pouvez consulter pour avoir plus d'informations sur l'ARACEM. Donc, c'est le www.aracem, donc c'est aracem.canalblog.com. Et donc, sur ce site-là, vous pouvez avoir d'autres témoignages et d'autres informations sur les conditions difficiles des migrants sur la route vers le nord d'Afrique centrale, vers le nord et sur la route du refoulement en Algérie. Également, je voulais vous parler un peu de la chanson à la fin. Bon, la chanson, c'est « Camarade, where your passport? » Mais ça, en fait, c'est du pidgin. J'ai appris ça, c'est une sorte de slang du Cameroun.
Oui.
C'est un franglais du Cameroun, le pidgin. Donc, c'est « Where your passport? » Et après, on dit « Every junction police, CK ». Donc, à chaque coin, à chaque jonction, il y a la police. Donc, c'est un chant d'encouragement et c'est ça pour un chant de solidarité entre les migrants. Et paraît-il qu'il y a tout plein de chants comme ça. Et j'espère pouvoir les découvrir et ramener des enregistrements éventuellement. Mais c'est un peu secret. On n'a pas voulu me dévoiler tous les chants parce qu'ils tiennent à leur droit d'auteur. Mais pourtant, je disais, c'était du patrimoine public. Pourtant, ces chants-là, mais non, c'est très intéressant de voir à quel point, finalement, ça se transmet de migrant à migrant. Et voilà, de voir c'est quoi leur parcours à travers ces chants-là. C'est intéressant aussi. Donc voilà, je répète le site web une deuxième fois, www.aracem.canalblog.com si vous voulez plus d'informations sur leur travail et pour voir qui sont ces gens-là.
Merci beaucoup, Myriam.
Merci.
Falou Dieng et le DLC seront en concert à Montréal samedi. Alors voici un extrait et au retour, on va vous parler de la Cour pénale internationale.
Wow, summer.
Welcome back to Amandla here on CQT 90.3 FM. The time now is 7:35 in Montreal, and Doug and I are going to try to tackle the International Criminal Court as a forum for breaking the cycle of impunity in Africa. So, Doug, what kind of triggered this whole discussion between you and me was the fact that the prosecutor of the International Criminal Court this week filed genocide charges against Sudan's president.
Yeah, it's sort of nice to see them standing up on their hind feet and making some, it is quite a courageous move. This is the prosecutor for the International Criminal Court, the ICC. He's Luis Moreno Ocampo. If I'm not mistaken, he's from Argentina, and he has a history there of prosecuting atrocities that occurred under the military regime in that country in the 70s, and so he's there now in The Hague. Working on that, and the UN Security Council had, and I'm trying to find the date. I think it's around 2005.
Yeah, it was 2005. Charged, had
mandated the ICC, the International Criminal Court. We'll call it ICC from now on, to look at the atrocities that were occurring in Darfur and see about bringing criminal charges where applicable. And didn't good old Luis Moreno Ocampo go out and do that? And he is already. Got warrants for the arrest of two very significant leaders of the Sudanese government, one who's the Minister of Humanitarian Affairs mm-hmm. right now. I'll find their names in a minute. And the other for a leader of the Janjaweed. And he got those out along with a number of others. There are almost 50 people now mm-hmm. who, if they leave the Sudan and step into one of the 106 countries recognized or party to the ICC convention, will be arrested.
Yeah, but what's particular about this case and is raising eyebrows or getting people all excited or discouraged is the fact that it's a sitting president who's been, I think there are 10 charges that have been filed
July
against him, right?
July 14th. Is the date, mm-hmm. and he has now issued arrest warrants. Now, they're not out there. They're issued to a panel of judges at the ICC who will listen to his case, the evidence he has amassed and pulled together around this, his case for the arrest of Sudanese President Omar Hassan al-Bashir. These are 10 charges are under three of the specific cases that the ICC covers as part of its mandate. Genocide, mm-hmm. which includes killing members of the Fur, Masalit, and Zagawa ethnic groups, which includes causing these groups seriously bodily or mental harm, and finally inflicting conditions of life calculated to bring about these groups' physical destruction. Then the next category is under the crimes against humanity, where it's just good old-fashioned murder, extermination, forcible transfer, rape, and torture. And finally, war crimes, attacks on civilians in Darfur, and pillaging of towns and villages. War crimes, of course, are the Geneva Conventions and all of that. So he's pulled this together and laid out the case that the forces and agents under the control of Bashir had killed at least 35,000 civilians outright and caused the slow death of anywhere between 80,000 and 265,000 people who were displaced from their homes by fighting. His logic being that he's even when his forces under his command haven't necessarily gone out to kill people, their actions have led by attrition mm-hmm. to their death through, of course, starvation in the desert.
Yeah, and he's even argued further that there's some 2 million Darfurian refugees who are now sitting in desert refugee camps in just absolutely desperate conditions, and their only line of survival is whatever aid is kind of directed their way, but that their existence is extremely precarious.
And deep in the... I only listed one crime against women based on gender and all of that, the rape issue. But in fact, that tends to be an extremely big one in this case mm-hmm. because rape is being used as one of the most serious weapons of war in this
which has only
battle.
Very recently been acknowledged as an instrument of war, and it is through these international tribunals that rape has been acknowledged as such.
The precedent set, the jurisprudence now being written yeah. allows us then to use it like that. His quote, and I quote, to justify this is, "Al-Bashir is the president. He is the commander-in-chief. These are not just formal words, and it's often been argued by others that a president doesn't necessarily know everything that's going on in his country. But according to Luis Moreno Ocampo, Bashir used the whole state apparatus. He used the army. He enrolled the militia in Janjaweed. They all report to him. They all obey him. His control is absolute. So with that kind of basis and all of the evidence, it's not just flim-flam. He's collected tons and tons of evidence going back almost 10 years now to support his case.
So you've sort of laid this down very clearly, and I mean, I agree, I share your enthusiasm at the courage of kind of nailing some of these guys who've been so responsible for committing these atrocities. But the thing is, as always, it's more complicated than that, and there's a lot of buzz going on about within the media, bloggers, people talking about this, people in Sudan, people in Zimbabwe, people in Kenya. People are really talking about this because, and I think that universally, from what I've read, it's applauded as a courageous step and something that's important in terms of nailing some of the guys who are responsible for these atrocities. But there is a lot of concern and reticence about the strategy. And here I want to bring up the whole thing, what's been referred to, I think, if Stephanie Nolan may or may not have coined the term, but the Charles Taylor effect. And what we're talking about here is that Charles Taylor, the former head of state of Liberia, responsible for some of the most horrific crimes imaginable against his people as well as against the peoples of a number of countries in West Africa. What happened to him, his story in a nutshell, was that through a lot of negotiation and discussion, he was successfully encouraged to leave power and seek asylum in Nigeria. Nigeria offered him asylum, and he eventually agreed, stepped down, moved to Nigeria, and Liberia was able to move on to a certain degree of stability after he left. And then what happened is there was the special court for Sierra Leone who ended up indicting him because he was directly involved in what had happened during the Sierra Leonean civil war. So lo and behold, even though he'd been granted asylum in Nigeria, there was extreme pressure exercised, particularly by the United States, to overthrow the concept of asylum and have Charles Taylor arrested so that he could come and testify in Sierra Leone at the court there. And eventually, even though Nigeria and the current president of Liberia really resisted this, said this is going to be terribly destabilizing for Liberia and the region, in the end, they handed him over, and he is sitting, you know, he's sitting trial in this court. And so what it's done is it has set a precedent violating the sanctity of asylum. And there's nobody who's going to jump to Charles Taylor's defense. He deserves whatever prosecution he ends up getting and rotting in jail forever. Nobody's going to mourn this. But the reality is that Liberia was able to find a degree of stability because they were able to get him out to asylum. Now, the reason I bring this up is that in Zimbabwe, with the situation with Mugabe right now, after the first round of elections, it is a known fact that Mugabe entered into negotiations with the opposition, the Movement for Democratic Change, the MDC, with the possibility of him seeking asylum and having protection, having immunity from any kind of prosecution for whatever crimes he committed during his reign. And he actually agreed to this and agreed that he would leave quietly. But his securocrats, five key generals responsible for the police, prisons, the army, said, no way. You may or may not actually end up getting immunity, but the rest of us are going to get flushed in this process. You need to stay. You need to hold on to power because of, quote, and this is from one of the securocrats, the Charles Taylor effect. And so the fact is that for them now, asylum is no longer a guarantee. Now, what is it a guarantee of? It's a guarantee of impunity. But what it is for the people who are left behind, the Zimbabweans in this case, is also getting rid of Mugabe, establishing a degree of stability, and moving on. And so it's, you know, this long arm of international law that's so celebrated, particularly in the West, and there is something that is really quite amazing about it. On the ground, in Africa, is turning out to be extremely problematic because it does not allow a gray zone of transition.
Now take a deep breath, Gwen. Take a deep breath. I think that you're attaching yourself here to the latest phenomena, where in fact the world has come together around the ICC and stood up to say, to hell with impunity, it's over, and it's just the outcome of a long-standing general movement. You have to go back to Pinochet, to Argentina, to Latin America, and the atrocities committed by the regimes upon their own people there over many, many years. And when Pinochet got to Europe, the Spanish judge who sent a request for the extradition of Pinochet to Spain to stand charges, what an uproar it caused. And all the same debates came out. Nothing's too good for him. Shave his balls with a rusty razor. Go after him any way you can. He needs to be caught. On the other hand, hold on. The past is the past. This man has had a status. The state did all of these things. It wasn't him. He was an individual. The state was something else. And but now what we have is a much more, I think, worldwide condemnation of abusive leaders. One hopes that it won't be hypocritic and just pick on the people in the third world like the Charles Taylors and the Hassan Obrés. But it's a big issue. And I think that what we're seeing now is one more outcome. Criminal behavior is criminal behavior. You pay for it any way that has, and it has to be organized. I'm not talking about lynching. Of course, shave the balls with the rusty. That's rather crude. But it requires due process. People need to face charges. They have to deal with what has transpired under their watch and often with their connivance.
Yeah. I'm going to inject a note of nuance again, Doug, because I hear what you're saying, and I completely agree in principle. I think the principle is fantastic. I think the reality on the ground, when you say the world has come around and is supporting the ICC, I think that...
From
the reading that I've done, a lot of the Africans on the ground, including Sudanese, who are very nervous about what is going on with the ICC. They are not supporters of al-Bashir in Darfur and elsewhere, but they are very nervous about the kind of whiplash effect because he, first of all, doesn't even recognize the jurisdiction of the court. He's not going to give himself
Neither does the United States.
Exactly, which is the hypocrisy to the extreme because they're the ones really pushing this. But anyway, there's nervousness there, but let's go back again to precedents. Let's look at countries that have gone through this process. So if we take it back to, for instance, Sierra Leone, it wasn't the International Criminal Court, but it was an international court. And there again, what people on the ground, the victims of the violence in Sierra Leone saw, and we'll move on to Uganda in a minute, but in Sierra Leone, they saw a fabulously expensive infrastructure. They saw a huge amount of money poured into this, but the victims of these crimes have not seen any form of compensation. And what some of them are arguing is that prosecution does not equal justice. It does, and in some instances, does not equal peace.
Gwen. Let's not confuse, confound, and conflate the bureaucracy with justice. Justice means we've had a problem, and we're going to deal with it. The fact that the UN has all this ridiculous bureaucracy that goes with huge consultancies, that has nothing to do with the problem. Yes, of course, it tends to cloud the issue, and we can run amok sort of discussing that kind of stuff. The problem is human rights are being abused daily by leaders. Leaders who should be protecting people, be defending their interests, be promoting their interests, are in fact abusing them. Pick whichever right you want, freedom of speech, freedom of assembly, religion, women. Women are the one who suffered the most in all of this. In fact, in the case of Sudan, rape is being used by the army, by the militia, by the Janjaweed.
Well, actually, the
But
the case study that I was looking at here for the Sierra Leonean case was actually a woman who was raped and had her legs amputated. And her point was that the leaders in this process have been indicted, but the people who actually perpetrated a lot of this crime are people within her community. And her feeling is that resorting to more traditional mechanisms of justice where this person would be brought to a local tribunal and would end up having to pay compensation to the victims of the crimes would have gone much further to restoring her ability to look after herself and her family
I cannot agree more. And again, don't confound and conflate the UN and up there with their highfalutin stuff with what should be restorative, restitutive.
But this isn't. The ICC isn't about that.
I know, but we're starting the whole process everywhere. And I might add that even in Rwanda, where I have a lot of issues to deal with, nonetheless, they have tried many, many ways to solve their problem by bringing people up and continuing to talk about it. They haven't swept it under the carpet. And that's one of the real issues of the whole thing. Sweeping it under the carpet by going and pretending that it didn't happen and just moving forward does not change the fair. You cannot move to the future unless the past has been dealt with.
I agree, but sometimes there's the past and the future, but there's also the present, and we can't get too stuck in that. It's true that we have to have a longer term view, but I want to point out to our listeners that the very first indictment ever by the International Criminal Court was back in 2005. The country was Uganda. The indictment was against Joseph Kony, who was a member of the Lord's Resistance Army, and rightly so. I mean, the crimes that have been perpetrated by the Lord's Resistance Army are just absolutely unimaginable. But the ICC started to investigate this situation just as the mediator in Uganda, Betty Bigombe, after spending years of building trust with the LRA, with the government, and was in the process of negotiating a truce, as soon as there was the announcement that there was going to be an investigation by the ICC of the LRA, Joseph Kony and all of his guys just disappeared. Boom, they were gone, and the whole thing was in a shambles. And for her, it actually set Uganda's ability to establish some peace and to come to some kind of workable, realistic resolution to the conflict, a negotiated settlement, which, yeah, might let some war criminals off the hook in the sense that they're not going to end up sitting in a jail, but was going to bring some peace and stability to Ugandans. For her, in the end, what the ICC ended up doing was just extending the misery of Ugandans.
Let me just use the case of Charles Taylor, and it would be the same case with Kony, that if either of these guys sit in a jail in Netherlands, they're far better off than they would be in any jail in the African continent.
But we're not looking after their well-being. We're looking at
there you are. And the fact that justice isn't just at the ICC, even in the case of Kony, they were talking about using local methods of justice and not necessarily retribution, but
they were actually looking at a negotiated
coming
settlement
back together,
as abhorrent
dealing with
as
this,
that is.
Bringing people back into the community. Yes, we made mistakes, we did things that were bad, and we will find ways of dealing with that as a collectivity. All of that is valuable, but we must never, ever, ever turn a blind eye to the fact that atrocities have been committed. And I use something as simple as my experience in Malawi, where 30 years of dictatorship under a hugely abusive situation. Again, women were simply dancing girls and sex slaves for the politicians. An elite took power and made themselves rich. We changed from dictatorship to democracy. Nobody gets arrested. Nobody gets tried. No courts or any sort of way of bringing about retribution or bringing about justice or even publicizing it has gone about. And now the old guard is still there, and they now hold power in the new guard. And while democracy holds these votes every 4 years, the people, nothing has changed for them. Yes, women don't have to dance, and sex isn't necessary. Exploited the same way, but because they never dealt with it, yes, they still do dance, and they still are called upon for favors. Okay. You know what we have is things like transitional justice. We get this from the Pambazuka News in Makau Matua. This is the latest feature of the 14th of July. Transitional justice in sexual and gender-based violence, and he's a professor of some stat here who says policymakers and statesmen now increasingly realize that a human rights state that internalizes human rights norms cannot be created unless political society concretely addresses the grievances of the past. We must address them. We address them many, many ways. We just don't sweep them under the carpet. We must address them. ICC is one and only one method.
Okay,
but complicate the current situation, yes, that may occur. Mm-hmm. And of course it always does. My life's a mess when my anybody gets picked up in my family and I have to bail them out for whatever reason. But the long term is, that's only going to happen once. because we'll make sure through family pressure and everything else that nobody goes wrong. So we
okay.
have to...
Well, let me just... I agree with everything you're saying again, Doug, but what it seems to be discordant with what a lot of Africans are saying on the ground, which is very clear.
I might...
The principles are heroic. They are something to strive for. They are definitely a goal and a principle, but I'm going to quote something, and again, it has to do with transitional justice, what you just said. When nearly 3,000 Ugandans were polled by the International Center for Transitional Justice last year, they listed their top priorities as peace, healthcare, education for their children, and the ability to farm their land. Only 3% chose justice. Asked what would be done with the leaders, with those responsible for major human rights abuses, more than half said they wanted forgiveness, reconciliation, or reintegration of the Lord's Resistant Army leaders. So again, I think it's a little bit of the real politic thing. There are the ideals,
of course.
And the principles, which I think everybody in their right mind agrees with, and then there's the concrete reality.
There always has to be a balance between justice for the victims and retribution against offenders. And I'm not claiming that we just go all one or all the other, but I think we're getting a point where leaders who with impunity walk all over their population are going to have to look over their shoulder. And the more they have to look over their shoulder, maybe the less they'll commit those atrocities.
Okay, let's take a break and take a breath.
Vous savez, quand on voit...
So welcome back to Amanda here on CQT, and I'd just like to let you know that that was that debate. I actually am extremely torn. I was just kind of took the role of the against the ICC as a tool,
and I just
think
like the
same
to argue.
With Doug. So it is very complex, and it's not an easy issue. And we certainly would like to hear your views about it, and if you'd like us to pursue this story or any others, so you can always feel free to send us an email at news@cqt.ca.
And watch our ADEX website for all sorts of things about this. And just to bring up briefly the fact that here's the G8 in somewhere in Japan making all sorts of noise about Zimbabwe, and none of this stuff about Sudan or Darfur is brought up at all, because why? They're right in bed with the Sudanese government on this war on terrorism. They've got a Canadian Sudanese origin who's now in refuge in the Canadian embassy in Sudan, but Canada won't give him a passport to come back to Canada, won't help him get through all the BS, and Canada's literally put him there. There are so many things. And don't forget, of course, the G8 hypocrisy around Zimbabwe. Come on.
Yeah, well, it's really...
They put Mugabe in place, and now they're keeping him there. Now they need somebody to whip. Hey, don't forget Baobab Baobab, don't forget them, the magazine. It's back, it's back. They're going to have a launch of the latest issue, Baobab Magazine. It's called Found in Translation. We know it's all about the film, but anyway. Come early. They got a do happening Wednesday, July 23rd. It's at the Tapis Rouge, 1252 Bleury, the corner of St. Catherine. Music.